t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Gute Morgen, ihr liebe Radio-Zuhörer von der Welle 102.9. Comment ça gazouille ce matin? Ravi de vous retrouver pendant cette demi-heure du mercredi et du dimanche matin. J'ai fait une place dans notre studio à une charmante invitée souriante, pleine d'énergie, sportive, musicienne en plus. Elle vient du pays Welsch, d'un petit village tout en longueur, rupt à l'ombre de ce mamelon, vous savez, entouré d'une auréole. Vous avez deviné, si si, bien connu des randonneurs, ben c'est le Climont, le pays de la confiture et de la porcelaine blanche, décoré par les doigts d'une fée, Edith Erret, l'esthète, la couturière du beau, comme l'ont baptisé tous les restaurateurs. Heureux de t'accueillir, Edith, dans le studio. Comment vas-tu ce matin?
Ça va très bien. Bonjour, André. Heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
Ben moi aussi, de partager ce petit moment. Alors, dis-moi, Edith, tu n'as pas changé? Ton sourire est toujours aussi contagieux?
Toujours, naturel, normal, plein de bonheur, plein de vie, parce que la vie est belle.
La vie est belle, il faut le dire. Ouais, c'est vrai qu'il faut partager ça ce matin avec nos auditeurs. Rupt, ton petit village, est à l'ombre du Climont ou du Champ du Feu?
On va dire entre les deux, le Champ du Feu, le Climont, où tu veux, un endroit magnifique pour faire de très très belles randonnées, avec de très beaux restaurateurs bien sûr, de très belles tables, plein de belles choses à voir.
D'accord, tu habites en fait, tu vas à la campagne, oui. Raconte-moi ton lieu de vie, il est comment ce lieu de vie?
Ah, mon lieu de vie, il est magique.
Rupt, c'est perdu, c'est un peu le...
C'est pas du tout ce qu'on pense. Rangru, c'est juste...
J'allais pas le dire.
Non, Rangru, c'est, je pense, dans la vallée de la Bruche, un des plus beaux villages.
Quoi?
Oui.
Il y a une église et un restaurant, et puis ton usine.
Et puis il y a plein de choses, et puis il y a plein d'ondes positives, plein de belles choses, plein de... oui, de randonnée, de marche, on peut faire du cheval, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses.
Le soleil arrive là-bas, parce que tu es enclavé entre les deux montagnes, entre le Climont et le Champ du Feu, et le soleil arrive jusqu'à Rangrupt.
André, même en tant que nuage, il y a du soleil. Parce qu'il y a du soleil tout le temps, sauf la nuit.
alors dis-moi, c'est comment tu es créatrice? Tu viens d'une famille de poutiers de Soufflemain ou de Betschdorf?
Alors de Betschdorf, oh, c'est une très très longue histoire. Depuis 1836, nous sommes poutiers de génération en génération. Nous représentons, ma sœur et moi, en fin de compte, la 9e génération de potiers.
9 générations? Mais oui. ça fait combien d'années, ça?
On compte
9,
plus.
Si, ça fait 25 fois 9, moins 25, ça fait 230 années à peu près.
Ça fait quelques rides sur le visage.
Ah oui, bon, ça se voit
un
pas.
Un beau savoir-faire.
Il faut les garder, tu sais, on a mis tellement longtemps à les avoir, il faut les garder, ouais. Et alors on peut dire que la poterie, tout cet art coule dans tes veines?
Oui, on l'a toutes et tous eu en perfusion à un moment donné dans notre vie, de père en fils, et de mère en fille. Donc c'est maman qui nous a retransmis avec le grand-père, l'arrière-grand-père bien sûr, ce magnifique métier qui devrait perdurer.
Métier avec de la terre, en fait, on sculpte la terre.
Alors on tourne, on sculpte, on fait plein de choses avec cette terre. Moi, je me suis plus spécialisée dans les arts de la table parce que je travaille quasiment qu'avec les restaurateurs. Et j'ai rajouté...
Mais parle-moi de ce que faisaient tes parents, c'était quoi? C'était des trucs de Beckhoff, qu'est-ce qu'ils faisaient comme poterie, des aïeux?
Dans le temps, c'était uniquement des pots pour la conservation.
La conservation
du chou, du navet, de la viande. Donc, moi, je n'étais pas là à ce moment-là.
Quand il n'y avait pas de frigidaire
encore?
Voilà,
pas de frigidaire. Donc, beaucoup conservaient les aliments dans le sel.
Ah, dans les grès, dans les pots de grès, comme ça, de Betschdorf?
Donc, on remplissait ces pots, hein, je veux dire, selon les quantités de produits. Et on mettait du sel. Donc, c'est une salaison pour conserver les aliments.
D'accord. Et aujourd'hui, ça existe toujours, Betschdorf? C'est toujours la même couleur, ce grès bleu?
Aujourd'hui, ça existe toujours, malheureusement, de moins en moins. Les techniques ont changé aussi. Les façons d'acheter, de consommer, de conserver, bien sûr, ont totalement changé. Les cuissons aussi ont changé. C'était au feu de bois, donc, dans le temps. C'est passé à l'électrique actuellement. Pourquoi? Parce que l'électrique, c'est beaucoup plus régulier depuis. Ouais. On a de belles cuissons. C'est beaucoup plus propre.
Et toi, tu es devenue en fait décoratrice de porcelaine. C'est quoi exactement ta passion, ton métier? Raconte-moi un peu ce que tu fais.
Alors, ma passion, ben, bientôt ça va faire 30 ans, donc l'année prochaine, je vais fêter mes 30 ans de reprise de la société, enfin j'ai la succession donc, de mes parents, où j'ai eu un très très beau savoir-faire, où je fais de très belles choses. Donc hormis la fabrication du grès, donc, que j'ai repris au moment du confinement, donc je fais tout ce qui est décoration sur porcelaine, beaucoup de personnalisation.
Veut dire tu peins sur la porcelaine? Tu fais cuire les assiettes?
Alors on peut faire en chromo ou en motif, en logo on va dire, ou en pinceau, selon la demande du client.
Ça veut dire quand je vais dans les restaurants, je mange dans une assiette que toi tu as créée, où on voit le logo.
Oui.
Style, je sais que la Sandkist par exemple, toi qui as fait les assiettes de Sylvain.
En plus un très très bon ami, Charlie Barra, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais avec qui on a fait de très très belles choses ensemble. Donc la Sandkist, bien sûr, j'ai d'autres beaux clients, Croisie Europe, pour ne pas les citer.
Là, c'est une grande entreprise.
Entreprise, une très belle entreprise.
Je crois que c'est une des plus grandes en Alsace, hein, avec le plus d'employeurs, d'après.
Ah, je pense, au niveau national, avec toutes ces agences qu'ils ont un petit peu partout.
Et toi, tu leur fais quoi, les assiettes, les bols pour le café? Tu leur fais toute la vaisselle?
Toute la vaisselle. Wow. Donc, ça fait 45 ans.
Wow.
45 ans qu'on est fournisseur officiel de la vaisselle chez Croisie Europe. Donc, entre autres, qui je remercie si quelqu'un m'écoute, de leur fidélité et surtout de leur confiance. J'ai d'autres clients, bien sûr, avec qui je travaille, comme l'abattoir, par exemple, Aubert-Jägerhoff, sur le territoire. Je travaille aussi avec des étoilés comme les Semailles, par exemple, à la Vente-Senot, là, c'est du verre. C'est plus une fabrication verre.
Parce que ça, tu le fais aussi, tu ne fais pas que de la porcelaine.
Non, je ne fais pas que de la porcelaine.
Mais tu es verrière,
on dit ça. Ça fait 27 ans.
27 ans que tu crées le verre. Et donc, tu as plein de machinerie, tu as plein de fours.
Il y a 5 fours en tout. Machinerie, pas trop, puisque tout est fait à la main. Tout est coupé à la main, tout est décoré à la main. Les moules sont fabriqués également à la main. Ce sont des moules soit en fibre de verre, soit en grès que je fabrique moi-même. Ce qui donne des pièces uniques.
Ah oui. Et alors, tu dis que tu travailles pour les restaurateurs, mais est-ce que le grand public peut venir chez toi également?
Oui, on a également une boutique sur place où le grand public...
Aranrupt,
oui, j'ai oublié de dire. Aranrupt, Vallée de la Russe. Où on a une boutique où il n'y a que des choses spécifiques. On ne retrouve plus mes produits dans les boutiques ailleurs. Je garde ça chez moi en boutique.
Bah écoute, on va déjà se reposer un tout petit peu les oreilles. On va demander à notre ami Thomas de nous mettre une belle petite musiquette. Tu vas voir, ça va te plaire ça.
Allez, on y va.
Mon invité est en train de voler dans le studio. Elle lève les bras, elle vole. C'est vrai qu'on a envie de voler hein, quand on écoute cette musique. Elle est magnifique. Hein. Tout en création. Ouais. Et alors, écoute, tu écoutes ce genre de musique dans ton atelier quand tu crées?
Ah oui. Malgré le bruit des machines. Le bruit, oui, des machines. Il n'y en a pas tant, hein, puisqu'on fait beaucoup à la main. Ce que je te disais, on travaille beaucoup à la main. Mais bon, oui, il y a des perceuses, il y a des ponceuses de temps en temps. Non, en mettant un bon son, oui, ça m'arrive beaucoup d'écouter de la musique. Tout ça, c'est de la musique tout le temps. Ça peut être du classique, beaucoup de jazz.
De jazz.
Énormément de blues.
Ah ben ça, on écoutera un peu tout à l'heure. Et alors, ça te permet de créer des objets parce que tu te laisses inspirer par le son de la musique?
Oui, totalement. Tu as entièrement raison. parce que ce que tu dis, André, la musique est porteur. La musique est porteur dans la création, dans les couleurs, dans plein de choses. Selon ton humeur aussi, tu peux être sur un gros blues, tu vas faire de très belles pièces, tu te lâches carrément éventuellement sur un classique, tu vas être plus raffiné, ça va être plus du pinceau sur un classique, par exemple.
Et alors, dis-moi, pour te revenir un petit peu à ce que tu fais comme travail, tu vas loin des fois rencontrer les chefs pour leur proposer ton travail. Est-ce qu'ils te demandent de temps en temps, les chefs, voilà, j'aimerais faire ce genre de plat, est-ce qu'ils sont exigeants, tes chefs, avec toi, quand ils te font passent des commandes?
Les chefs sont exigeants avec moi, comme ils le sont envers eux-mêmes, en fin de compte. N'ont pas droit à l'erreur, je n'ai pas droit à l'erreur. Le zéro faute n'existe pas, mais on essaye de se rapprocher au plus près de leurs demandes. Oui, on fait des choses magnifiques.
Est-ce que c'est important de manger dans une belle assiette quand tu as un plat d'un chef étoilé? Est-ce que ça fait partie du repas, ça?
Oui, l'assiette est le support. D'abord, on regarde ce que le chef a travaillé, mais il y a le support. Le support doit être un feu d'artifice lorsque l'on pose sur la table. On regarde avec les yeux. On mange avec le palais, tout doit être un ensemble. Tout doit être une symbiose, en fait, entre l'assiette, le plat. C'est un respect mutuel de tout un ensemble. Et du client, bien sûr, final.
Ouais, tu es vraiment une artiste, hein, tu en parles bien de ton travail. Alors dis-moi, quels sont les grands chefs étoilés que tu as rencontrés en Europe ou en France? Parce que tu vas des fois jusque dans le sud, hein, vers Nice. Je crois que tu as des bons clients là-bas également,
oui, chefs étoilés. Oui, on travaille avec, entre autres... le mat du Langoustier, par exemple, Porquerolles, on travaille avec le Saint-Jean-Cap-Ferrat, le Grand Hôtel Saint-Jean-Cap-Ferrat. On travaille avec plein d'autres de très très belles pizzerias, on va dire des pizzerias haut de gamme, style Mamma Mia. Je suis gâtée parce que je travaille beaucoup en sous-traitance via un distributeur, en fin de compte, qui travaille à des très belles maisons et où j'ai l'honneur de décorer, en fin de compte, leur porcelaine.
Et tu décores aussi avec un pinceau, tu fais de la peinture sur la porcelaine ou comment fais-tu? Explique-moi voir comment tu fais. Par exemple, si tu dessines une assiette, prenons l'exemple de Sylvain à la Sandkist, je sais qu'il y a un décor alsacien, donc tu le fais avec ton pinceau?
Alors Sylvain, c'est c'est un motif ou un chromo, une décalcomanie, on va dire.
Ah d'accord. Ouais.
Voilà. Après, Sylvain, qu'est-ce qu'elle a sur ses assiettes? Elle a donc ce fameux motif au centre de l'assiette, mais peut-être complété ou fini par un filet au pinceau.
Ouais, c'est ce que l'arrondi, si tu veux.
Voilà, l'arrondi. Ouais. Après, je fais aussi beaucoup de motifs style rocaille au centre ou côté d'une assiette. Voilà, comme on a fait également pour le tilleul, ça c'est une assiette en verre, on a travaillé avec une spatule, avec des pigments en sérigraphie, je rentre un peu dans les secrets.
Ne livre pas tous les secrets. Et je me souviens d'une assiette que tu m'avais montrée il y a quelque temps, une assiette un peu qui ressemblait à la Voie lactée, comme ça, qui était toute translucide. C'était très joli dans les roses, tu avais mis des couleurs extraordinaires. Je trouvais que cette assiette, c'était lumineux, c'était comme des étoiles de la Voie lactée. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je me souviens de cette assiette qui était magnifique et c'était une commande également pour quelqu'un. Raconte-moi un petit peu ton lieu de vente. C'est également devenu un salon de thé. Tu proposes des gâteaux, des cafés-couronnes.
Oui, alors ça, j'ai fait ça avec ma fille. Donc pendant le confinement, on ne sait pas quoi faire. Donc on essaye de réfléchir à plein de choses. Dans le temps, on avait déjà donc cette fameuse brasserie que l'on a remis en route.
Tu avais une brasserie dans ton atelier?
Oui, il y avait déjà une brasserie. Mais on a changé le principe. En fait, les gens qui viennent chez moi aujourd'hui peuvent jouer au piano.
Parce que tu as un piano
guitare.
À queue.
J'ai un beau piano à queue, pardon. Playel, j'ai une guitare, il y a un billard, il y a des livres, il y a plein de choses. Je veux dire, c'est devenu un lieu de détente.
Ah, c'est bien ça. Donc les gens peuvent se mettre dans le sofa, écouter de la musique.
Tout à fait.
Goûter un gâteau, boire un thé ou un café.
Donc on est parti sur du petit plat à midi. Donc voilà, on a décidé d'ouvrir que le midi, du lundi au samedi. Enfin, c'est en continu, 10h-18h.
Mais tu as suffisamment d'assiettes pour faire des plats?
On chip. Alors, on joue à la dinette. C'est vrai ce que tu dis. On joue beaucoup à la dinette, on va dire, pour les plats à midi, ce qui permet aussi de faire les essais pour mes clients. hein, donc sur ce que l'on fabrique pour mes clients. Mais on joue effectivement à la dinette. Donc on prend des petites pièces, on en met dans d'autres, on passe dans les fours et ça donne quelque chose de magique.
Et les gens qui viennent manger savent que tu as créé cette assiette dans laquelle ils mangent ?
Oui, en règle générale, oui. Ils le savent. De toute façon, à un moment donné, ce qui est représenté dans l'assiette représente également le support, puisque c'est la même idée, c'est le même état d'esprit. Ce que l'on veut emmener ou offrir à toutes les personnes qui viennent, c'est un moment, juste un grand moment de détente, oublier qu'ils sont dans un magasin, oublier qu'ils sont dans un restaurant, on va dire traditionnel, juste une fusion entre les deux. Si je suis à l'atelier, ces mêmes personnes peuvent venir avec moi à l'atelier et regarder ce que je fais en fin de compte. Si je travaille au pinceau, si je travaille le verre, ou si je fais de la décoration tout simplement, ou une fabrication en grès.
Dis-moi, Talam, d'où vient cette énergie ? Tu es une femme incroyable, tu as plein d'énergie, tu as l'air d'être très très heureuse, écoute, aujourd'hui.
Oui, je suis heureuse, épanouie. Et pourquoi ? Parce que la vie mérite d'être vécue comme elle l'est, ne pas réfléchir tout le temps à demain, encore moins à ce qui s'est passé. Prendre chaque moment comme il est là et puis le vivre à 100 à l'heure, même plus.
Et tu parles de 100 à l'heure, tu fais aussi du sport de haut niveau. Alors, raconte-moi ton sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport ? Dis voir ça.
Là, tu vas me trahir. Là, tu m'as trahi.
Tu fais de la moto de compétition. Raconte-moi
oui,
ça.
Oui, depuis quand même pas mal d'années. Un jour, il y a un ami qui me dit, je te mets sur circuit. J'ai dit, je ne suis pas capable.
Comment, sur un circuit ? Tu fais de la moto sur circuit ?
Sur circuit.
Style Hockenheim, à côté en Allemagne ?
Par exemple.
Non.
L'anneau du Rhin, plein de choses. Dijon, ouais. Barcelone, enfin plein de choses.
Mais donc, tu n'as pas une moto traditionnelle pour aller
non.
en ville. C'est une moto de compète, quoi.
Oui, il n'y a plus rien. Il y a juste moi et la moto.
Wow. Et après, tu es habillé en cuir, comme ça, avec, lederhose.
Obligé. Mais t'as pas les bretelles. Et t'as pas le chapeau.
Et alors, dis-moi, la vitesse, mais c'est grisant, non ? J'imagine.
La vitesse, c'est grisant. Oui, c'est grisant. Alors, pas partout, bien sûr. Hein. Évitez les routes. Si vous voulez rouler vite, roulez sur des circuits ou des endroits appropriés, on va dire. Oui, la vitesse, c'est grisant. La vitesse, ça permet de se lâcher, d'être dans sa bulle, d'évacuer et de penser à, après, quand on arrête, à demain, à ce qu'on va faire.
Mais c'est-à-dire tu fais de la compète, donc tu fais des concours, tu navigues avec des hommes et des femmes à Hockenheim, vous faites des courses ?
Oui, des courses, j'ai fait pas mal de courses, j'ai fait j'ai fait championnat d'Alsace en 2016, j'ai fait première.
Waouh !
En tant que féminine, bon, moi je m'en rends pas très compte.
Mais il y a beaucoup de femmes qui font de la moto de compétition.
Ça commence.
Tu n'étais pas toute seule sur le circuit ?
Non, ça serait trop facile. Non, ça commence. C'est bien que les femmes s'y mettent aussi, parce que tous les sports sont pour tous, hommes ou femmes, hein, je veux dire, quel que soit le métier, quel que soit le sport, je pense qu'il n'y a pas de... Non, c'est beau d'ailleurs ce mélange, et ça permet d'apprendre aussi plein de choses. Et du masculin et du féminin.
Mais quand tu vas vite, c'est à quelle vitesse sur un circuit, par exemple ? Je ne sais pas, une moto comme ça peut aller jusqu'à où ?
Ah, ça peut aller 300.
Non, ce n'est pas vrai.
Oh, mais je suis encore loin, les meilleurs sont bien au-delà de 300.
Ce n'est pas vrai, mais tu sais faire de la moto à cette vitesse-là ?
Oui.
Ce n'est pas vrai.
Oui.
300 à l'heure ? Waouh. En ligne droite, alors ?
Oui, en ligne droite.
Sûr, pas dans les virages.
Non, pas dans les virages.
Alors, ce n'est pas un peu dangereux de faire de la moto, de compète ?
Non, du tout. Du tout, faut pas avoir peur, faut aimer, c'est tout.
T'as pas peur.
On se pose jamais cette question, en fait. On se lève le matin, on va pas se dire, oh, c'est dangereux si je me lève. Non, on y va. C'est la vie. J'aurais pu faire couturière. Moi, je le fais quelque part.
Mais tu es déjà un peu couturière de la porcelaine.
Oui, j'y suis quelque part.
Mais de la moto, c'est incroyable. Et t'as plusieurs motos dans ton garage ?
Ah, je me suis mis à l'enduro. La route, tout simplement. Et puis, peut-être un jour... faire le tour du monde, en commençant par le tour du quartier.
Avec la moto ? Faire du tour du monde avec la moto ?
Oui.
Ah, le tour d'Europe, le tour de France,
c'est mon
le
rêve.
Tour d'Alsace.
En fait, je crois que tout rêve est réalisable. À partir du moment où on ne se met pas des objectifs irréalisables, tout rêve est réalisable. Depuis petite, je rêve de moto, je rêve de circuit. Je rêve d'avoir une belle vie, ce que j'ai eu.
Mais tu l'as, cette belle vie, ça se voit derrière tes yeux.
Ouais, je suis passionnée.
Mais écoute, avant de continuer, on va faire reposer un tout petit peu les oreilles et demander à notre ami Thomas de mettre la musiquette numéro 2. Tu verras une musique que tu aimes, une musique manouche.
J'adore.
Thank you.
Alors, je te vois pianoter là sur le studio. C'est entraînant, hein, cette musique. Ah, dis-moi, c'est... cette musique, Manouche, c'est ton musée musical, ça ?
Ah, mon musée musical, oui, j'aime beaucoup, parce que c'est entraînant, c'est joyeux, c'est beau, c'est tout simplement naturel.
Parce que tu connais des Manouches dans ton entourage ? Tu connais des gens qui t'en connaissent, que ce sont tes clients à toi aussi ?
Oui, mais très peu. Très peu, on va dire très peu. Je connais plus du pianiste ou du guitariste, on va dire. Enfin, guitariste, ça peut être du guitariste Manouche, effectivement.
Ouais. Parce que tu joues aussi d'un instrument de musique, hein. Tu joues de la musique.
Je me souviens, tu as des guitares.
Tu as des guitares électriques chez toi,
oui.
Des guitares sèches. Qu'est-ce que tu préfères
entre... tu te rappelles.
Bah, moi, on avait fait un reportage à l'époque avec toi, avec Hutter, donc je me souviens de tout ça.
Guitares, piano.
Piano, ouais.
Piano. Et en fait, ça vient, je pense que j'ai hérité ça, la cuisine, la création de ma maman, on va dire, de côté de ma mère. La cuisine, c'est aussi une sorte de création, mais du côté de mon père. Et bien sûr, la musique, je pense aussi les sports mécaniques du côté de mon père. Et la musique, bien sûr, du côté de mon père, puisqu'il était dans le temps, dans les années 50-52, il avait déjà son orchestre.
Et il jouait quoi comme instrument ?
Batterie.
Ah, de la batterie.
Ah, lui,
ouais.
C'était batteur, oui. Batterie, et d'ailleurs, le frère à maman, donc Gérard Schmitter, lui, il faisait également, il était accordéoniste, ses temps perdus.
C'était de la famille,
oui,
alors,
les
Schmitter.
Oui, je pense qu'on est tous, oui, ouais, oui, ouais. Tout à fait.
Et tu as baigné dans cette musique pendant ton enfance.
Oui, exactement.
Et qu'est-ce que tu sais jouer, la guitare, par exemple ? Qu'est-ce que tu joues ?
Oh là là, alors là, c'est à l'instinct. Alors, tu vois, il suffit que j'entende un petit morceau, Eric Clapton ou autre, B.B. King ou n'importe. Et du coup, ben, j'arrête tout, je vais dans ma boutique, là où il y a le piano, la guitare. Je m'assois au piano, guitare et j'accompagne.
Attends,
je chante.
Alors, tu parles de musique à l'instant, de musique. Je vais te faire écouter quelque chose qui va certainement te plaire parce qu'il m'a demandé, c'est ta musique que tu aimes beaucoup, une musique qui vient de Chicago. Mais voir un peu de musique si tu veux bien, Thomas. Dans cette musique de blues, qu'est-ce que tu aimes ? Le rythme ?
Le rythme, la légèreté, la musique en fait, tous ces instruments qui se mélangent à un moment donné, c'est comme mon travail en fait, comme ma passion.
Tout se mélange ?
Tout se mélange. Tu pars d'une note, tu pars d'une pièce et tu rajoutes une autre note, un autre instrument. Et chez moi, tu vas rajouter une autre pièce, un autre pigment pour finir à quelque chose de majestueux.
C'est l'infini, en fait.
C'est l'infini.
C'est comme la Voie lactée.
Oui, c'est ça, tout à fait.
C'est exactement ça, tes assiettes, comment
tu
crées.
Tu sais pas, et tu avances.
Tu avances tout doucement.
Tu avances.
Et tu avances toujours, tous les jours.
Tous les jours.
Tu as de nouvelles idées.
Des nouvelles idées, oh là là, il y en a une qui sort toutes les minutes, si je voulais m'écouter, il y en a une toutes les deux minutes. Non, des idées, oui, il y en a plein, je veux dire, bien sûr, aujourd'hui, il faut s'adapter avec ce qui se passe hein, dans le monde, avec l'actualité et ainsi de suite. Non, il faut avancer, se faire plaisir avant tout.
Et alors, tu t'es fait plaisir parce que tu, même dans ton atelier, si tu as une salle d'exposition, tu exposes des artistes, des peintres, des sculpteurs.
Oui, exact. On fait tous les ans, maintenant ça devient un rituel, où on reçoit chaque année deux ou trois fois dans l'année, donc une vingtaine d'exposants qui sont que des artistes, que des artisans, des créateurs, malgré tout, et qui, comment on peut dire ça, avec un lien avec ce que l'on fait, avec ce qui représente mon atelier.
Et alors, dis-moi, tu as des... quels sont tes projets pour 2023, pour ton entreprise? C'est quoi tes grands projets? C'est de faire toujours plus d'assiettes, d'avoir de nouveaux clients?
2023, ça va être dans le luminaire. On va éclairer...
Ah ouais? Toute la ville?
Tour en rue, allez, on va montrer qu'il y a beaucoup de belles choses sur cette terre.
Ça veut dire quoi l'éclairage? Tu fais quoi?
Non, on va faire du luminaire, oui, je suis partie dans le luminaire cette année, tout en créant, en continuant à travailler pour mes clients. Du luminaire parce que je trouve que c'est beau, parce qu'on peut valoriser une ambiance, valoriser une pièce, valoriser un endroit intime ou vraiment très éclairé. Moi, je trouve la lumière, oui, c'est très beau.
C'est beau, la luminosité. Alors, oui. Ta petite entreprise ne connaît pas la crise?
Non, ne connaîtra jamais la
jamais.
Crise.
Jamais, parce que tu es là, tu es derrière, tu veilles au grain.
Jamais la crise, c'est moi qui crise en fait.
En tout cas, voilà, notre émission se termine tout doucettement. Je te remercie d'avoir passé cette tranche de vie avec moi. J'étais très heureux de t'avoir derrière nos micros.
Magnifique.
Passe une bonne semaine, une belle année et on se retrouvera bientôt derrière le micro de Radio Judaïka. À bientôt, merci d'être venu.
Merci André, merci Radio Judaïka, merci pour ton aimable...
Invitation.
Ah, invitation, voilà. Les mots me manquent. Bonne journée à tous.
Salut à tous.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà. Shape.